Bonsoir et bienvenue à tous à cette conférence du Pôle Info Santé sur le thème ce soir, un thème qui se résume en une question: nos rêves sont-ils vraiment si éloignés de la réalité? Le principe, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Pôle Info Santé, c'est de faire de ce rendez-vous donc une rencontre entre des spécialistes et le public et de pouvoir discuter autour du thème. C'est le fruit, le Pôle Info Santé, c'est le fruit d'un partenariat entre le CHU, qui a une mission d'éducation à la santé, et l'Espace Mondès France, qui est un centre culturel et scientifique. Donc c'était normal qu'ils puissent se rencontrer à un moment donné. Donc sur l'intervenant de ce soir, donc c'est le professeur Xavier Drouot qui est à côté de moi et qui est chef du service neurophysiologie clinique au CHU de Poitiers et spécialiste du sommeil. Certains l'ont peut-être déjà vu à un précédent rendez-vous justement sur le sommeil. Il va commencer donc ce soir par nous faire un exposé donc sur le thème de la soirée et ensuite je vous donnerai la parole donc en vous donnant le micro pour que vous puissiez poser vos questions. Si vous hésitez à poser vos questions à l'oral, il n'y a pas de souci. Dans les dossiers que vous avez reçus, vous avez des petits documents papier sur lesquels vous pouvez les inscrire avec un crayon. S'il vous plaît, pour mes yeux, essayez d'écrire le plus lisiblement possible. Et pas de souci, je les retransmettrai. Donc, on va avoir l'intervention, les questions du public et on va clôturer à 20h. Non pas que ce soit l'heure d'aller se coucher, mais ce sera sans doute l'heure déjà d'aller dîner avant d'aller se coucher et de rêver. Si vous avez des questions, essayez de faire qu'elles ne soient pas trop personnelles, parce que c'est vrai qu'on n'est pas sur une consultation personnalisée, on est plutôt d'ordre généraliste. Et dans la pochette qui vous a été remise, donc vous avez le fameux petit papier pour poser vos questions si vous ne voulez pas les poser directement au micro. Vous avez également un document sur l'intervention du professeur Drouot ce soir. Alors ne lisez pas tout, parce qu'apparemment il y a des surprises. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, gardez-le et vous découvrirez pendant la conférence. Et vous avez aussi une fiche qui vous permettra de remplir, c'est une fiche d'évaluation qui vous permettra de donner votre avis sur la soirée, vos impressions. Ça aide les organisateurs pour la suite, pour faire évoluer le rendez-vous, pour compléter s'il faut. Enfin voilà, vous pouvez faire vos remarques, même pour dire que c'était très bien, vous pouvez aussi le dire, ça fait toujours plaisir. Pour le reste, une dernière chose peut-être, si vous voulez bien éteindre vos téléphones portables, ce serait dommage qu'une sonnerie intempestive vienne nous empêcher de rêver ce soir. Je vais passer la parole au professeur Drouot.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci beaucoup à l'Espace Mondès France de m'accueillir une fois de plus. C'est la combienième fois? Vous comptez? Oh non, si, il faut compter quand même. Vous comptez plus. Bon, merci beaucoup en tout cas de faire appel à moi. C'est toujours un grand plaisir, surtout pour parler des rêves et du sommeil. C'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vois que la salle est pleine. Donc l'autre salle est ouverte aussi. Donc les gens peuvent continuer à arriver dans l'autre salle. Super. Donc je vois que la salle est pleine. Je vois que j'ai des étudiants aussi. Des gens qui viennent de très loin. Il y a des gens qui viennent de Tours même. Nous écouter, vous rendez compte. Pour vous dire l'aura de Mendès France. Bien. Donc effectivement, on aura largement le temps d'échanger tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas parler trop ni trop longtemps pour laisser place aux échanges. Et on va parler effectivement de cette question. Est-ce que nos rêves sont si éloignés de la réalité que ça? Alors, en descendant la rue de la cathédrale, je me disais, comment est-ce que je vais pouvoir introduire mon show et puis, enfin, ma conf. Je vais essayer de ne pas vous endormir. D'accord, donc ça fait toujours mauvais effet de s'endormir à une conférence sur le sommeil, même si, donc voilà, vous me dites, si vous endormez, j'accélérerai, je parlerai plus fort ou plus doucement, au contraire, pour laisser dormir ceux qui s'ennuient. Et je me disais, finalement, la réalité, c'est quoi? La réalité, comment est-ce qu'on peut la définir? Je sais que je suis dans la réalité, j'ai conscience d'être dans la réalité. Okay, c'est une première chose. Je peux la modifier. C'est-à-dire que je peux venir à une conférence de Mendès France ou pas, si je n'ai pas envie ou si je suis malade, je ne viens pas. Et voilà, donc je peux la modifier. Je peux m'entraîner, dans la réalité, je peux m'entraîner et m'améliorer et faire des choses de mieux en mieux. Mes confs sont peut-être de mieux en mieux. Non? Si elles sont de mieux en mieux, j'espère en tout cas. Je peux imaginer, donc je peux m'entraîner dans la réalité, je peux imaginer des trucs complètement fous dans la réalité aussi, d'avoir un service au CHU de 2 étages avec 4 médecins par étage. Ça, c'est pour s'il y a des gens de l'administration du CHU, c'est des choses très très fous auxquelles je rêve tout le temps, y compris quand je suis éveillé. Et puis je peux échanger aussi avec d'autres personnes dans la réalité, c'est ce qu'on va faire. Et on va essayer de voir un peu si effectivement c'est la même chose durant les rêves. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais juste faire je vais vite passer sur les premières diapos parce que donc c'est la 2, 3, 4e ou 5e conf que je fais et donc effectivement, je ne sais pas s'il y a des habitués, non ? Oui, parfait. Donc je vais pas les reprendre en détail. Juste pour vous dire à quoi sert le sommeil. Ben, essentiellement, le sommeil, ça sert à se restaurer, hein, à avoir récupérer de la dette, de la fatigue qui a été accumulée durant la veille précédente. Donc il y a un rôle anti-fatigue. Et puis il y a aussi un gros rôle de mémoriser. J'en parle un petit peu parce que c'est important. On mémorise beaucoup de choses durant le sommeil. On oublie aussi beaucoup de choses. Il y a une espèce de tri qui se fait. Si on a le temps, on en parlera tout à l'heure. Par exemple, si je vous montre ce joli poème de Georges Bonnet et que demain matin, je le tronque et je vous laisse que le début de phrase, et bien vraisemblablement, vous allez pouvoir retrouver la fin des phrases si vous l'avez appris ce soir, alors que ce ne sera pas le cas si vous l'apprenez le matin et que je vous interroge le soir, sauf si vous avez dormi toute la journée. Alors, il y a d'autres rôles qui sont affectés au sommeil. On commence à les connaître de mieux en mieux. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus. Le système cardiovasculaire se repose aussi. Hein. Le cœur ralentit, la tension artérielle diminue. Il y a plein d'hormones qui sont sécrétées exclusivement durant le sommeil. Donc, ça, c'est important aussi. Et puis, on sait que les globules blancs ont besoin aussi que l'on dorme. Parce que quand on ne dort pas, ils ne fonctionnent pas bien. Et puis, évidemment, il y a un rôle dans l'équilibre psychologique. J'aurai certainement des questions tout à l'heure là-dessus. Pour commencer, je vais quand même vous rappeler, même si je crois qu'il y a eu une conf il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était ici la conf sur les rêves, c'était dans cette salle la conf sur les rêves où on vous a réexpliqué un petit peu ce que c'était que le sommeil. Il faut imaginer qu'il y a trois grands types de sommeil. En fait, il y a deux grands sommeils, ce qu'on appelle le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent, c'est un sommeil lent, où le cerveau est parcouru de grandes vagues qui sont très lentes et très amples. Et il y a un sommeil lent léger et un sommeil lent profond, le sommeil lent léger étant léger et le profond étant plus profond. Je vois que vous ne dormez toujours pas, parfait. Donc ce sommeil lent profond et ce sommeil lent léger, surtout le sommeil lent profond, c'est le sommeil qui est en règle générale, auquel on attribue la compensation et la restauration de l'activité cérébrale et des muscles. C'est le sommeil le plus restaurateur, le plus récupérateur. C'est celui qu'on commence, et on commence la nuit par faire ce sommeil-là. Et puis, il y a un sommeil paradoxal. Alors, juste un petit mot sur le sommeil paradoxal qui a été inventé par Michel Jouvet, qui est un très grand chercheur français qui est décédé l'année dernière, qui a découvert le rêve. C'est un chercheur qui était tout jeune, il était étudiant, et il était en Master 2, il faisait un petit peu de recherche à Lyon. Et pour se faire un petit peu de sous, il surveillait les animaux, il surveillait les chats qui étaient enregistrés. On enregistrait le cerveau des chats, de chats épileptiques. Et donc lui, il fallait qu'il surveille que les électrodes ne se débranchent pas. Et puis, plusieurs fois par nuit, il s'apercevait qu'il y avait des trucs très très bizarres où l'activité du cerveau changeait brutalement, complètement. Il n'y avait plus les grandes ondes lentes du sommeil que l'on voit là, d'ailleurs, que je vais vous montrer juste là. Le sommeil lent, c'est l'activité très lente, ces grandes vagues très lentes du cerveau qui parcourent l'activité électrique du cerveau. Il s'apercevait qu'elle disparaissait. Et alors, il avait très peur de se faire engueuler. Il se dit, mince, qu'est-ce qui se passe ? Les chats sont débranchés. Et puis, il allait voir, il regardait. Et puis non, les chats, ils dormaient bien. Et il se rapprochait d'eux et il s'aperçoit, c'est extrêmement bizarre, parce que donc sur mon oscilloscope, on a l'impression qu'il est réveillé, alors que je vois, il dort, c'est complètement paradoxal. Et en fait, en s'approchant très très bien, il s'aperçut que les chats étaient complètement mous, complètement relâchés, hein, que les pattes des chats étaient toutes molles, par contre que les yeux bougeaient très très vite dans tous les sens. Et donc il a dit, c'est complètement paradoxal. Et donc il a décrit le sommeil paradoxal en 1953, que les Américains ont appelé différemment un an plus tard. Et donc, sur les enregistrements que nous, on fait au laboratoire et qui nous permettent de savoir dans quel stade est le sommeil, eh bien, on enregistre donc l'électroencéphalogramme, hein, c'est l'activité électrique du cerveau. Vous avez ici un exemple quand on est réveillé, d'accord ? Les mouvements des yeux et le tonus du muscle du menton, vous allez voir dans un instant pourquoi. Le sommeil léger, donc il y a une ou deux ondes lentes. Et puis le sommeil profond, eh bien, il y a beaucoup d'ondes lentes. Donc le cerveau est parcouru par toutes ces ondes lentes. Et le sommeil paradoxal, c'est un stade très très différent. Puisque vous voyez que l'activité électrique, il n'y a pas du tout d'ondes lentes. Et elle est relativement proche, alors pas tout à fait de l'éveil, mais de l'éveil calme. En tout cas, il n'y a pas du tout, c'est plus proche de ça que de ça. D'accord ? Et ça, c'est le sommeil paradoxal sur l'activité électroencéphalographique. Donc le cerveau est très réveillé à ce moment-là, ou du moins dans une activité proche de l'éveil. Les muscles sont complètement abolis. On est complètement paralysé quand on est en sommeil paradoxal. Les muscles sont complètement relâchés. Il n'y a plus du tout d'activité musculaire. Et par contre, on bouge beaucoup les yeux. Hein, vous voyez qu'on bouge quasiment pas les yeux ou très peu les yeux ici. Ça, c'est l'activité du cerveau qu'on enregistre. Mais là, on voit que les yeux bougent beaucoup. Dans le sommeil de rêve, on bouge beaucoup les yeux. D'accord. Enfin, le sommeil paradoxal, pardon. Et donc, à la suite des expériences de Michel Jouvet, où il a poursuivi ses expérimentations et ses remarques sur ses chats, et il s'est aperçu qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'il rêvait. Et pendant très longtemps, on a pensé que les rêves survenaient essentiellement dans ce type de sommeil-là. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études. Là, je vais vous résumer en une demi-heure un nombre d'études incalculable. J'ai essayé de les centrer. J'en ai pris quelques-unes qui sont les plus amusantes et les plus en rapport avec la question qu'on s'est posée ce soir. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'études. Et on sait maintenant que finalement, on rêve aussi bien en sommeil lent qu'en sommeil paradoxal. C'est plus facile de rêver en sommeil paradoxal. On s'en souvient mieux. C'est des plus beaux rêves. Ou des plus beaux cauchemars, mais bon, c'est, en tout cas la charge émotive est beaucoup plus importante, mais on rêve tout le temps. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un rêve ? Comment est-ce qu'on peut les étudier ? Comment est-ce qu'on a pu caractériser ces rêves ? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un rêve ? Un rêve, finalement, c'est une espèce d'histoire qui nous est arrivée, une espèce de scénario, une perception, des pensées, une activité mentale, quelle qu'elle soit, souvent chargée d'émotions, qui ont été vécues durant le sommeil et dont on se rappelle. D'accord ? C'est le seul moyen d'avoir accès au rêve, un des seuls moyens d'avoir accès au rêve, c'est de demander à sujet un sujet de le raconter. On verra qu'il y a d'autres moyens indirects. On peut voir à quoi les gens rêvent. J'en parlerai probablement en étayant une réponse à des questions qui ne se manqueront pas de survenir. Donc voilà, donc c'est des choses qui se passent, une activité onirique, une activité mentale. Il se passe des choses dans le cerveau, on imagine quelque chose. Et donc, comme je le disais, cette activité mentale, durant toute la nuit, elle existe. Le cerveau, un de mes professeurs de psychiatrie quand j'étais jeune m'avait dit le gros problème du cerveau c'est qu'il ne s'arrête pas de penser. S'il s'arrêtait de penser, si le cerveau arrivait à s'arrêter de penser, il n'y aurait quasiment pas de maladie ni psychologique, ni d'anxiété, ni de pathologie psychiatrique. Le problème du cerveau c'est qu'il n'arrête pas de penser et c'est vrai, durant le sommeil, le cerveau continue à penser même si on ne s'en rend pas compte et même si on ne s'en souvient pas. Et donc, les rêves qui ont pu être étudiés, alors comment est-ce qu'on fait pour étudier un rêve et savoir quelle est la tonalité des rêves en sommeil profond ou en sommeil paradoxal ? Eh ben, on met des électrodes sur le cerveau d'un sujet, on le met dans de bonnes conditions pour dormir et puis on le réveille au moment où on veut le réveiller, donc soit en sommeil paradoxal, soit en sommeil lent, et on lui demande de nous raconter à quoi il pensait. Alors, il ne raconte pas toujours des choses très cohérentes. Souvent, il dit « je ne sais pas bien », mais en analysant les mots qu'il emploie pour décrire ce qu'il ressent, on arrive un petit peu à deviner le contenu de la conscience à ce moment-là. Et quand on le réveille en sommeil paradoxal, donc en sommeil de rêve, là où il y a le plus de rêves, eh bien, l'activité mentale elle est très, très imagée. Il y a beaucoup d'images qui sont rapportées quand on réveille quelqu'un en sommeil paradoxal. Les scénarios sont complexes et il y a un engagement affectif très important. Il y a beaucoup d'émotions ressenties quand on réveille quelqu'un en sommeil paradoxal. En revanche, quand on réveille quelqu'un en sommeil profond, c'est plus rare d'avoir des recueils de recueils de rêves. L'activité mentale est plus calme, elle est plus simple, moins complexe, moins scénarisée, il y a moins d'émotions. Les mots qui sont utilisés sont des mots plus neutres, plus calmes, plus tranquilles. Mais pour autant, c'est probablement c'est aussi une activité mentale qui a lieu durant le sommeil. Alors, comment est-ce qu'on fait pour étudier le sommeil ? Comment est-ce qu'on a fait pour étudier le sommeil ? Eh bien, c'est pas très compliqué, il suffit d'interroger des gens. Alors maintenant, à l'ère d'Internet, il y a des banques de rêves. Alors, les Américains ont inventé... Donc une banque de rêves, c'est une banque où les gens déposent leurs rêves. C'est pas une banque où on vient acheter des rêves. C'est pas... On pourrait le penser, mais non, c'est pas ça. Et ce site Internet donc de banque de rêves, où il y a... Alors on peut déposer des rêves si on veut, mais souvent, c'est des collections de rêves qui ont été récupérés dans des études. Il y a plein d'études, donc il y a plein de gens qui s'amusent à réveiller des gens dans la nuit, et donc ils collectent les rêves et ils les mettent sur cette banque. C'est que si vous voulez savoir, alors moi j'ai essayé, je sais pas si on a internet, on pourra essayer tout à l'heure, on peut interroger cette banque et savoir par exemple quelle est la proportion de gens qui ont rêvé à, moi je sais pas, marcher sur la lune ou faire des choses un petit peu bizarres. On peut avoir des réponses. Alors, de quoi rêve-t-on ? Bah, très souvent, quand on parle de rêve, les gens disent « oui, moi je rêve », ou on a l'impression qu'on fait des rêves un peu typiques. On rêve qu'on vole, on rêve qu'on perd ses dents, qu'on sort tout nu en public. Eh bien, il y a des gens qui se sont amusés à interroger ces banques de rêves pour savoir est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était fréquent ces rêves de vol ou des rêves de perdre ses dents. On a toujours ces choses à l'esprit. Eh bien, en fait, quand on regarde et sur une requête qui a regroupé 3300 récits de rêves, eh bien, on s'aperçoit que les rêves de vol sont très minoritaires. C'est moins d'1%. Finalement, c'est pas tant que ça. Alors, les gens se sont dit, d'accord, on rêve qu'on vole, pas tout le temps, ou c'est peut-être rare. Il y a des gens qui ont interrogé, qui ont demandé s'il y avait des rêves érotiques. Là aussi, c'est une grande idée dans la communauté ou dans les sciences. On dit, bah oui, on rêve de sexe ou de câlins. Eh bien, on s'est aperçu qu'effectivement, sur 22 000 rêves, récits de rêves analysés, c'était vraiment une minorité, les rêves avec une connotation sexuelle. Si ce n'est que c'était un petit peu plus important chez les hommes que chez les femmes. Même en rêve, les hommes sont plus obsédés. Bon. Et c'était vrai pour... Donc c'est vrai, ces rêves dits typiques sont, en fait, effectivement, donc c'est la même chose, perdre ses dents, tomber dans le vide, tout ça, c'est des rêves qui ne sont pas si fréquents que ça, au contraire. On en parle beaucoup, on entend beaucoup parler, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Alors qu'est-ce que c'est que des rêves typiques ? Quel est le contenu de rêves habituels ? Eh bien, le plus souvent, les rêves ne sont pas si extraordinaires que ça. C'est assez proche de la réalité. Ce sont des rêves qui sont finalement une réplique de ce qu'on vit tous les jours. Par exemple, alors la définition d'un rêve, il y a des chercheurs qui se penchent sur la définition des rêves. C'est un récit clair, cohérent, détaillé d'une situation réaliste qui implique le rêveur, d'autres personnes occupées à des tâches et des préoccupations tout à fait ordinaires. C'est le plus souvent, quand on rêve, finalement, le plus souvent, c'est finalement déjà pas très très loin de ce qu'on vit d'habitude. Une première similitude, finalement. Déjà, les thèmes ne sont pas si éloignés de ce qu'on fait d'habitude, de ce qu'on voit d'habitude. Le sens dominant, alors ça on le sait tous, c'est la vision. On rêve beaucoup qu'on entend, qu'on voit. Le rêve dominant, c'est la vision. On voit essentiellement en rêve. On n'a pas tellement d'explications, sauf que vraisemblablement, les seuls muscles qui restent, donc j'ai dit tout à l'heure qu'en sommeil paradoxal, tous les muscles sont abolis. Il y a deux types de muscles qui restent encore actifs. C'est les muscles de la respiration, bien évidemment, on ne s'arrête pas à respirer quand on dort. C'est les muscles oculomoteurs. Les muscles, donc on peut bouger les yeux, et on bouge les yeux quand on rêve. Donc c'est peut-être pour ça qu'effectivement, la vision est prédominante. Les gens entendent rarement ou rapportent rarement des récits auditifs. Très souvent, les émotions des rêves habituels sont plutôt négatives. C'est rarement des émotions très positives. Les éléments, donc là encore, les récits de rêves, quand on interroge les banques de rêves, ce sont surtout des éléments de tristesse, d'angoisse, d'appréhension, de confusion, dans un endroit qu'on ne connaît pas très bien. Ils sont largement majoritaires, avec une petite différence entre les hommes et les femmes. Les éléments de tristesse sont plus présents dans les rêves des hommes que dans les rêves des femmes. Alors, les éléments de bonheur, il y en a, des éléments de bonheur, de joie et d'émotions positives, il y en a. C'est en général du succès ou de la joie, mais c'est moins de la moitié des rêves. Donc, les rêves sont surtout négatifs. Souvent, on n'est jamais tout seul dans nos rêves. Un peu comme dans la réalité, souvent. Il y a souvent des gens qui sont intégrés dans les rêves. Et puis très souvent, dans 20% des cas, ce sont des rêves qui sont liés au travail. Et ça, on va voir effectivement que finalement, les rêves se nourrissent beaucoup de la journée qui vient de se passer. Et donc effectivement, même chez les retraités, même chez les retraités qui ont cessé de travailler depuis plusieurs années, peuvent continuer à rêver de leurs rêves. Il y a plein de gens qui ont fait des études comparées comme ça chez des gens actifs et des gens retraités. Il n'y a pas de différence. Les retraités rêvent encore de travailler. Pourquoi s'arrêter alors ? Bon, on peut continuer à rêver de travailler. Alors après, je pense qu'il y a d'autres. Cependant, curieusement, et ça revient un petit peu avec les émotions, il y a des gens qui se sont amusés à regarder si les gens se faisaient plaisir au travail ou pas. Eh bien, plus les gens sont insatisfaits au travail, plus ils rêvent du travail. Alors, est-ce que effectivement la journée, ce qui s'est passé dans la journée impacte ce dont on va rêver? Alors, il y a des gens qui sont amusés à faire des expériences, un peu, pour être un petit peu barbare pour ceux qui n'aiment pas Tetris, mais vous connaissez le jeu Tetris, hein, et ben, ils ont pris des volontaires sains, ils les ont entraînés 3 heures par jour. Il fallait qu'il y ait 3 heures par jour sur le Tetris. Et puis, ils ont laissé s'endormir. Et puis, ils les ont réveillés, soit tout de suite après l'endormissement, soit au cours de la nuit. Et ils ont dit, bah, maintenant, racontez-moi de quoi vous rêvez. Et effectivement, la plupart des volontaires qui ont participé à cette étude disent avoir vu des images. Alors, en fait, ils ne parlaient pas d'écran. Ils ne parlaient pas de l'expérimentateur, ils ne parlaient pas des conditions dans lesquelles était faite l'expérience. Ils parlaient de ça, hein, c'est des éléments les plus saillants. Hein, c'est-à-dire, effectivement, alors, c'était, au mieux, c'était des pièces qui tombent devant leurs yeux. Au pire, c'était des espèces de jeux ou de récits de noir et de couleurs qui revenaient devant les yeux. Donc, c'était plus ces éléments-là qui revenaient que l'environnement de l'expérimentation lui-même. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui confirment le fait que ce qui s'est passé dans votre journée va nourrir ce qui s'est passé, ou ce qui va se passer durant votre nuit. Alors il y a des gens qui ont fait encore mieux, ils ont dit, bon, Tetris, ça fait avec les doigts, c'est pas très compliqué. Il y a des gens qui se sont amusés à mettre des gens dans des simulateurs de ski. Maintenant, on peut faire ça, des simulateurs de réalité virtuelle. Ils leur ont dit, bah, voilà, skier. Et donc, la même chose, ils les ont réveillés durant la nuit et leur ont demandé ce qu'ils voyaient, à quoi ils rêvaient. Et là, il y a une immense majeure partie, enfin, il y a beaucoup de gens, hein, quasiment 90% des volontaires, qui voyaient des jeux en s'endormant. Alors, pas forcément, là encore, pas forcément des images du jeu lui-même ou de l'expérience elle-même, mais c'était plus, il y avait des arbres qui apparaissaient dans leurs rêves, ou du ski, ou du froid, ou de la course, ou des espèces de danses comme ça. Donc, c'est pas vraiment c'était inspiré de ce qui s'est passé, de ce qui s'était passé dans la journée, mais pas vraiment, mais pas complètement reproduite. Ce qui a fait dire à un des grands chercheurs du sommeil, qui s'appelle Hobson, que finalement le cerveau gardait une petite part de création et que c'était pas simplement un simple copieur, un simple éditeur, qui avait quand même une part d'imagination et que durant le rêve, le cerveau prenait des éléments de ce qui s'était passé, mais il en faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et il ne retraçait pas systématiquement, on ne revivait pas systématiquement en rêve ce qui s'est passé dans la journée. C'est parfois mieux que ce qui s'est passé dans la journée. Alors, donc ça c'est juste pour vous prouver, hein, et résumer qu'effectivement, il y a une continuité entre la réalité et ce dont on rêve, qui donc vous démontre qu'effectivement, les deux ne sont pas très très éloignés. Alors il y a des gens qui sont amusés, plutôt que de faire des expériences comme ça, de mettre des sujets dans des expériences auxquelles ils n'ont jamais participé, de leur demander de raconter exactement ce qu'ils faisaient dans leur journée, puis de comparer les récits de la réalité, les récits de rêve. Et effectivement, ils s'aperçoivent que très très souvent, hein, dans quasiment 70% des cas, il y avait une incorporation d'événements récents, de ce qui s'était passé dans la journée, mais que, encore une fois, la réplique, elle n'était pas toujours fidèle. Hein. C'est-à-dire que le cerveau prend des bribes de ce qui se passe dans la journée pour en faire un petit peu ce qu'il vaut, pour tricoter une nouvelle aventure, une nouvelle histoire après. Alors, est-ce qu'on peut provoquer des rêves avant de s'endormir? Eh bien, la réponse, c'est oui. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est pas compliqué. Je ne vais pas avoir l'ambition de vous faire rêver de moi ce soir. Encore que. Il y a des gens qui se sont amusés à faire cette petite étude où ils sont amusés à demander à des gens de retenir la phrase-là. Essayez simplement de retenir cette phrase, hein, dans une salle de bain. Un corbeau orange peint un poisson au-dessus d'une radio et badigeonne un buste de crème anglaise. Essayez de vous en souvenir, essayez de la retenir. dans deux diapos, j'interroge tout le monde. Et donc, dans l'expérience qu'ils ont fait, ils ont montré que c'est ce genre de phrase qui est le mieux incorporé dans le rêve. Donc, théoriquement, j'aurais pu venir en orange avec des plumes, mais l'espacement de l'espace m'a dit « Non, monsieur, c'est un peu sérieux, cette conférence. » Donc, ils n'ont pas voulu. Donc, j'ai mis que la phrase. Et donc, voilà. Et donc, j'essaierai de vous la rappeler tout à l'heure. Et si vous en rêvez, vous m'envoyez un mail. lecorbeauorange@yahoo.com, hein, c'est pas fr, c'est .com. Je me suis trompé hier soir en... j'aurais mieux fait de dormir. Au lieu de créer l'adresse mail, c'est .com, c'est pas .fr. Pourquoi est-ce que ça se retient bien ? Parce que c'est un truc complètement loufoque, en fait. Et le seul moyen de retenir cette phrase, c'est de l'imaginer. C'est de la visualiser. D'accord ? Et donc, quand vous allez essayer de mémoriser cette phrase, un corbeau orange qui peint dans une salle de bain, une radio... Il badigeonne de crème anglaise ou de crème fraîche un buste avec qui peint un poisson. Enfin, c'est complètement loufoque. Ça ressemble bien à ce dont on pourrait rêver. Et bien, effectivement, ce genre de choses-là, vous allez vous en souvenir. On y reviendra tout à l'heure et j'espère que vous allez pouvoir la retenir et que vous rêverez. Et si vous rêvez de moi, ou de cette phrase plutôt, écrivez un petit mail au corbeau orange. Alors, est-ce qu'on peut rêver de choses, d'événements, d'actions qui ne se sont jamais déroulées, qu'on n'a jamais connues. La question intéressante. Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que moi, je peux penser à des choses que je n'ai jamais faites ? Ça, je peux. Quand je suis conscient, je peux. Eh bien, il y a des gens qui se sont amusés à interroger et à questionner les rêves de gens qui étaient paraplégiques, qui n'ont jamais marché. Ils ont pris un groupe de 10 blessés médulaires, donc des gens qui avaient un traumatisme de la moelle épinière. Donc il y avait 10 hommes, ils étaient âgés entre 30 et 70 ans, et puis il y avait 5 paraplégiques de naissance, et puis 15 sujets contrôle qui n'étaient pas paraplégiques et qui étaient appariés, c'est-à-dire qu'ils avaient le même âge à peu près et le même genre, ils avaient mis autant de femmes dans les groupes. Okay. Ils ont recueilli leurs rêves pendant 6 semaines, sans leur dire ce qu'ils recherchaient, bien évidemment. Et là, ils ont des surprises très amusantes, puisqu'ils se sont aperçus que 90% des patients ou des gens qui étaient paraplégiques rêvaient de marcher. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas connu du tout avant ça. 90% des blessés médulaires, mais également tous les paraplégiques de naissance. Donc les gens qui n'avaient jamais marché rêvaient quand même de marcher. Alors qu'évidemment, il y avait 20% de ces rêves où ils avaient vraiment clairement la perception de bouger les jambes, une perception de bouger les jambes. Et je vous ai mis un récit de rêve d'une jeune femme qui a une paralysie de naissance, qui n'a jamais marché. Eh bien, elle raconte son rêve. J'étais valide, j'apprenais la danse classique au cours Florian, je dansais, le prof me montrait ce qu'il fallait que je fasse. J'étais en tutu blanc, il m'a appris des étirements à la barre, à l'élastique, j'avais la tête en bas, ça me tirait sur les jambes, comme si elle marchait, quoi, hein, finalement. Donc on rêve. En rêve, les gens qui n'ont jamais marché rêvent qu'ils marchent. Ça apprend beaucoup, hein, sur la façon, sur ce qui se passe durant le cerveau pendant le rêve ou pendant le sommeil paradoxal. Là, c'était probablement le sommeil paradoxal. Une des explications, notamment sur la marche, c'est que finalement, la marche, c'est quand même un programme moteur extrêmement important pour l'homme. Et vraisemblablement, il y a des gens qui pensent qu'il y aurait peut-être une espèce de programme inné, un pré-programme chez l'homme qui ferait que le cerveau, quand il se développe chez l'enfant et quand il mûrit chez le jeune enfant, le pré-câblage existe et que il existe et puis il perdure, quoi qu'il se passe. C'est presque quasiment inné de marcher. Il y a d'autres gens qui pensent que ça a plutôt lié aux neurones miroirs. Hein. Vous savez que les neurones miroirs, c'est des neurones qui s'activent quand ils voient quelqu'un faire quelque chose. Par exemple, si vous me regardez faire ça, d'accord, eh bien, il y a probablement chez chacun d'entre vous les neurones qui commandent ce mouvement du bras qui s'allument et qui commencent à être excités pour être prêts à faire la même chose. Donc ces neurones miroirs-là, qui ont été mis en évidence effectivement par Jeannereau, aussi un chercheur lyonnais, il n'y a pas très longtemps. Et donc, en fait, effectivement, il y a d'autres gens qui pensent que tout ça, c'est un peu lié et que c'est finalement la capacité à se mettre à la place des gens, à être empathique avec les gens, et que ça, ça fait partie du câblage inné. Est-ce que les aveugles rêvent ? Est-ce qu'ils voient dans leurs rêves ? Eh bien, la réponse est oui. Les aveugles de naissance, ils ont des phénomènes comme ça. Ils sont capables de dessiner des choses qui ressemblent un petit peu à tout ça. Alors, on sait que les aveugles, ils peuvent avoir une représentation mentale du monde. Hein. On sait qu'ils ont, ils savent, hein, ils parlent simplement par le toucher, ils savent ce que c'est que quelqu'un, ils savent ce que c'est que un corps humain. C'est un peu plus compliqué pour le soleil, mais manifestement, quand on leur explique, ils arrivent à avoir des représentations du soleil et des nuages. Mais donc, des gens qui n'ont pas les capacités de faire des choses, qui sont aveugles, qui n'ont jamais marché, en rêve, ils peuvent faire cela. Est-ce qu'on peut contrôler ses rêves ? Comme la réalité, moi, je peux la contrôler. Est-ce que on peut contrôler nos rêves ? Eh ben, la réponse, là aussi, c'est oui. Certaines personnes peuvent contrôler leurs rêves. On appelle ça des rêveurs lucides. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous, il y en a certainement. Ce sont des gens qui ont globalement la conscience qu'ils rêvent au moment où ils rêvent. Ils sont dans leurs rêves et ils ont conscience. Tiens, je rêve, c'est sympa. Et globalement, il y a trois niveaux de rêveurs lucides. Le premier niveau, c'est les gens qui ont conscience qu'ils rêvent, ils savent qu'ils rêvent. Ça peut arriver, hein, c'est assez fréquent. Le niveau un peu plus au-dessus, ils arrivent à modifier leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils rêvent, qu'ils marchent, ou qu'ils sont en train de faire les courses, ou qu'ils vaquent à leurs occupations quotidiennes. Et ben, puis à un moment, ils se disent, voilà, ce rêve, il devient chiant, si j'allais plonger en Martinique. Et hop, ils rêvent, ils arrivent, ils sont en Martinique et ils plongent. Ok. Et puis il y a d'autres, encore un autre stade de gens qui arrivent à rêver encore plus, qui arrivent à encore plus conscience, puisqu'ils arrivent à communiquer pendant leurs rêves. Alors comment est-ce qu'ils communiquent ? C'est pas simple, hein, mais ils communiquent en fait en bougeant leurs yeux. Je vous ai dit que nous, sur les polysomnographies qu'on fait, quand on met des électrodes ici, 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 on peut capter les mouvements des yeux. Et bien on leur dit avant de leur rêve, voilà, quand vous êtes endormi, que vous voulez communiquer ou nous dire que vous allez commencer ce qu'on vous a demandé de faire, et bien vous faites des mouvements des yeux comme ça. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Okay. C'est ce qu'ils font là. Hein, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et là, il fait le mouvement qu'on lui a impliqué. Et puis il dit là, droite, gauche, c'est fini, j'ai fait. D'accord. Donc les gens, ils rêvent. Alors par exemple, quand il y avait des expériences. Alors à la Salpêtrière, qui est là, Isabelle Arnulf, mon amie Isabelle Arnulf, travaille beaucoup sur les rêves. Il y a beaucoup de ces diapos ici, enfin, surtout tout à l'heure, ils font ça beaucoup chez plein de gens. Ils font même ça chez des patients. Là, ils leur demandent, par exemple, ils s'interrogeaient de savoir si on pouvait s'arrêter de respirer en rêve. Et donc, effectivement, bah, il dit, le type, il rêve, il bouge les yeux, et puis hop, il fait une apnée. Hop, il arrête et il rebouge les yeux pour dire, ça y est, j'ai fini de faire l'apnée. Et ça, nous, comme on enregistre les mouvements thoraciques et abdominaux, on peut savoir si la personne, effectivement, peut contrôler sa respiration durant le rêve. Et c'est une réalité. Donc ça, c'est des rêveurs lucides qui ont la capacité de modifier leur rêve et d'être complètement conscient qu'ils rêvent. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on peut les étudier. Est-ce qu'on peut s'améliorer en réalisant une tâche ? Est-ce qu'on peut s'entraîner en rêve ? Moi, quand je fais de la musculation, je m'améliore et je suis plus en forme, mes muscles se gonflent, j'ai plus d'activité. Est-ce qu'on peut faire la même chose ? Est-ce qu'on peut s'entraîner en rêve ? Bien, la réponse est oui, puisqu'il y a des gens qui se sont amusés à mettre des gens, là encore, dans de la réalité virtuelle, et il fallait qu'ils trouvent la sortie de ce labyrinthe. Alors, je n'ai pas regardé où est-ce qu'elle était, mais donc, c'est dans une espèce de labyrinthe comme ça, il faut qu'ils circulent, ils ont une petite manette, un petit joystick, et ils arpentent, et on commet le temps qu'ils ont mis pour sortir du labyrinthe. Donc, ils leur font ça le matin, ils les font dormir 2 heures, et puis ils refont faire la même tâche l'après-midi. Et puis, ils demandent aux gens, pendant la sieste, est-ce que vous avez rêvé du truc, là ? Et ils comparent ceux qui ont rêvé de la tâche et ceux qui n'ont pas rêvé de la tâche. Ils s'aperçoivent que les gens qui ont rêvé de la tâche sortent plus vite du labyrinthe que ceux qui n'ont pas rêvé de la tâche. Donc, effectivement, durant le rêve, le cerveau a mémorisé, s'est amusé à garder les éléments les plus prégnants et à garder le souvenir de la sortie et l'utilise au réveil. Il y a d'autres gens qui... Moi, je m'intéresse à la fatigue et à la fait sur la motricité. Ils ont fait exactement la même chose, mais sur des haltères. Ils rêvaient que vous portez des haltères, et puis on va voir si vous êtes plus costaud le jour. Ils ont trouvé que oui. Je ne suis pas sûr. Hein. Moi, je ne suis pas complètement certain des études. Alors, en fait, ce n'était pas de la force, c'était mesuré des activités cérébrales en rapport avec la force déployée. Donc, c'était vraiment des mesures extrêmement fines. Je ne suis pas super convaincu. Encore qu'il se passe probablement des choses très importantes durant le rêve, comme on le voit là. Alors, est-ce que quand on rêve d'un examen, on réussit mieux ? Une bonne question. Et donc là, toujours, l'équipe de la Salpêtrière et de mon amie Isabelle Arnulf, ils sont amusés à interroger des étudiants de première année de médecine qui bossent comme des malades, ils font que ça, et évidemment, ils rêvent du concours. Ils ont sélectionné ceux qui rêvaient et puis ceux qui ne rêvaient pas, évidemment. Ils leur ont demandé de quoi vous rêviez. Alors la réponse, effectivement, c'est catastrophique. Hein. Ils rêvent ces trucs atroces. Hein. Ils rêvent que... Donc ils ont rêvé la nuit pré-concours en bleu et tout le premier trimestre en rouge. Bah, globalement, ils rêvent que c'est la catastrophe. Quoi, hein. Ils rêvent qu'ils ne sont pas préparés, qu'ils sont malades le jour J, que les documents sont mal préparés, qu'ils n'arrivent pas à se réveiller. La nuit, juste avant le concours, ils rêvent donc qu'ils n'arrivent pas à se réveiller, qu'ils arrivent en retard, c'est énorme. Que le lieu du concours a changé et qu'ils ne le trouvent plus. Enfin bon, bref, c'est tout un tas de catastrophes qui se présentent. Il y a même quelqu'un qui a un récit de rêve où il disait que les copies étaient en chinois et qu'il n'arrivait plus à lire les trucs. Donc c'était affolé complètement, c'était atroce. Il y en a qui arrivent tout nus, non ? Oui, je crois qu'il y en a qui arrivent tout nus. Enfin bon, bref, des choses, presque des cauchemars finalement en rêve. Après, donc les gens de la Salpêtrière, les chercheurs sont amusés à regarder, ils ont récupéré les notes, et ils sont amusés à regarder comment étaient les notes. Et vous avez ici la note au concours, et là, la fréquence des rêves. C'est-à-dire, eux, ils n'ont jamais rêvé du concours, eux, ils ont rêvé parfois, eux, ils ont rêvé assez souvent, eux, ils ont rêvé souvent, et ils ont rêvé très très souvent. Ils ont publié cet article en avril 2017, je crois, non, 2013. 6 mois après, ils avaient tous les étudiants à la porte du laboratoire pour leur demander comment est-ce qu'on fait pour rêver du concours. Hein. Parce que, évidemment, ceux qui rêvaient très souvent du concours, ils avaient de meilleures notes. Et ils ont même ajusté sur d'autres paramètres dont on sait que ça influe sérieusement sur le concours, notamment la note au bac. Eh bien, rêver du concours la veille du concours donne 0,5 points en plus. 0,5 points sur ce genre de concours, c'est 100 places. Hein. Et donc, effectivement, ils ont tous été envahis d'étudiants qui ont demandé « Mais comment est-ce qu'on fait pour rêver du concours ?» Donc, en fait, ce n'est pas vraiment ça. Hein. C'est que ce sont probablement les plus investis, ceux qui sont le plus inquiets, ceux qui sont le plus... je ne suis pas sûr que ce soit vraiment les rêves qui facilitent. Il faudrait regarder dans d'autres professions. Je ne sais pas s'il y a des gens... Monsieur le maire n'est pas là, mais est-ce qu'ils rêvent de ne pas être élu, par exemple ? Est-ce que ça... Un truc comme ça. Il faudrait leur poser la question. Globalement, ces rêves-là, en fait, simulent des situations un petit peu dramatiques auxquelles on s'attend, qu'on n'a pas forcément envie de voir survenir. Mais c'est un peu comme si ces situations négatives procuraient un gain cognitif ou nous rendaient un peu plus vigilants, un peu plus alertes vis-à-vis de ce qui allait se passer. Alors, donc quand on rêve, on pourrait dire qu'effectivement, on est plus performant. Ça, c'est une autre étude très amusante où les gens sont amusés à comparer des performances, et c'est les dernières diapos, les performances... De ce qu'on peut faire, d'habilité, lorsqu'on réalise... ici, ils ont demandé, en fait, ils ont dessiné un rond, ils ont demandé à un sujet de suivre le rond, de faire un rond avec son regard. D'accord ? Et on a les moyens, encore une fois, de regarder les mouvements oculaires durant le rêve. C'est très, très intéressant. Et donc c'est pour ça qu'on étudie beaucoup l'œil. Et donc là, voilà la courbe de la pupille, effectivement, quand le sujet réalise, effectivement, le rond. Pas compliqué, c'est à peu près correct. D'accord ? Vous avez ici... Lorsque le sujet l'imagine, donc il ferme les yeux, il ne le fait pas, il l'imagine. Et donc là, on imagine, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on regarde sur alors, il a les yeux fermés, il le fait quand même, mais les yeux fermés, il n'a pas le rond. Donc il le fait comme ça. Et puis, ça, c'est ce qu'il fait en rêve. Donc les rêves lucides dont j'ai parlé tout à l'heure, ils battent à droite-gauche, ils font le rond, et puis ils font droite-gauche pour dire j'ai fini mon rond. Bah, c'est quand même vachement mieux réussi quand on le rêve que quand on l'imagine. Hein. Quand on le fait les yeux fermés. Donc ça, un simple rond, c'est aussi vrai quand on leur a demandé de faire le signe, de suivre le signe ou de dessiner le signe infini avec leurs yeux. Donc quand ils le font, bah, on reconnaît un signe infini. Quand ils l'imaginent, non, on ne le reconnaît pas bien. Et par contre, quand ils le rêvent, et bah, finalement, quand ils le font en rêve, bah, finalement, on le réalise pas si mal que ça. Et donc c'était très amusant de s'apercevoir que finalement ce qu'on fait en rêve, c'est plus proche de ce qu'on fait dans la réalité que ce qu'on imagine. Je trouve ça assez joli d'imaginer que nos rêves étaient vraiment, en tout cas de ce qu'on faisait en rêve, de ce qu'on réalisait en rêve, étaient plus proches de la réalité que ce qu'on arrivait à faire simplement en imaginant. Et donc, en fait, quand moi j'imagine mon superbe service à 2 étages, 4 médecins, en fait, j'en rêverais de 3 étages et 10 médecins par étage. Vous transmettrez mes rêves à monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Donc, finalement, les rêves ne sont pas si éloignés de la réalité. Est-ce qu'on peut établir une fonction des rêves? On n'est pas bien sûr. Globalement, ça sert à consolider la mémoire, ça joue, même sur ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, avec donc le rôle de mémorisation que je parlais dans mon introduction. C'est vraisemblablement un moyen de développer la capacité de vie avec les autres, hein, de reconnaître et d'être en empathie avec les autres. Et puis peut-être effectivement d'anticiper ce qui va se passer de manière à nous préparer aux événements et aux choses qui ne sont pas forcément très agréables. Vous vous souvenez de ma phrase, le corbeau orange qui peint dans une salle de bain un poisson sur une radio en badigeonnant, tout ça, et vous n'oubliez pas l'adresse mail, elle est là, yahoo.com, le corbeau orange. Merci beaucoup.
Merci, yahoo.com, hein, corrigez vos documents. Je vais donc passer prendre les questions. Voilà, je vais être aidée, en plus formidable. Simplement, je ne vous ai pas signalé tout à l'heure, mais la soirée est enregistrée, et comme ce sont les 30 ans de l'espace Mendès France sur le thème du rêve, là, en plus du son, on aura l'image, et ce sera donc retransmis sur le site de l'espace Mendès France et du CHU. Comme ça, si vous avez envie de réécouter, déjà, ce sera possible. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister ce soir, ce sera aussi possible de réécouter. Donc, je vais venir poser les questions. On ira aussi au planétarium pour récupérer aussi des questions. Est-ce qu'il y a déjà des volontaires pour commencer? Attendez, peut-être madame. Je vous prends après.
Les personnes qui sont dans le coma rêvent-elles?
Alors, c'est une excellente question. Ça dépend du niveau de coma. Mais effectivement, celles dont le cerveau n'est pas trop abîmé peuvent rêver. Et on sait d'ailleurs que c'est un signe de bon fonctionnement du cerveau. Et globalement, il y a des gens qui imaginent, enfin, il y a des gens qui sont en train de maintenant d'enregistrer le sommeil des patients qui sont dans le coma pour essayer d'évaluer un petit peu l'atteinte du cerveau, l'atteinte cérébrale, la fonction cérébrale. Et on sait qu'effectivement, les gens qui rêvent, sur lesquels on retrouve des éléments au moins de sommeil paradoxal, sortiront du coma probablement dans les semaines qui viennent. Donc effectivement, certains rêvent, et c'est plutôt de bons pronostics, ça veut dire qu'effectivement, la fonction cérébrale est maintenue et reste active, et que globalement, le cerveau n'est pas si abîmé que ça. Absolument.
On avait une question par ici.
La qualité du rêve, au sens où il fait référence à des actions très très lointaines. C'est un critère de qualité, c'est-à-dire à quoi ça correspond. Est-ce qu'on a une idée de ça? La quantité de rêves dans une nuit, si on en fait plusieurs. Est-ce que le rêve est réparateur au sens où plus on fait de rêves dont on se souvient, plus le repos était profitable? Voilà, par exemple.
Alors, il y a 3 questions. Est-ce que le repos est profitable? Est-ce que plus on rêve, plus on est reposé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça n'a pas été étudié. On associe plutôt le rêve au repos psychologique, en fait. Hein. Donc, comme je disais, c'est le sommeil profond qui est plutôt le sommeil réparateur. Est-ce que plus les rêves sont lointains, est-ce qu'ils sont de meilleure qualité? Moi, plus je vais loin, effectivement, plus c'est sympa, parce que quand on rêve qu'on va sous les tropiques ou sur la lune, c'est sympa. Non, plus sérieusement, je ne suis pas sûr qu'effectivement le rêve... Dans le temps, l'antériorité. En règle générale, les rêves qui contiennent des éléments qui sont passés il y a 40 ans sont pas forcément pas toujours des éléments positifs ou qui ont laissé un bon souvenir. Je suis pas sûr que ça ait été étudié. En tout cas, dans les articles que j'ai lus, notamment sur les paraplégiques, ils ne rêvaient pas de l'accident, par exemple, pour les traumatisés médulaires. Donc je saurais trop dire. Et puis la première question, c'était sur la fréquence des rêves. Est-ce qu'on rêve beaucoup Est-ce qu'on rêve beaucoup ? Alors, la question est double en fait. Est-ce qu'on rêve beaucoup ou est-ce qu'on s'en souvient beaucoup des rêves ? C'est deux choses différentes. Alors, se souvenir beaucoup. Alors, il y a des gens qui se souviennent beaucoup de leurs rêves. Il y a des gens qui s'en souviennent pas du tout, mais qui rêvent hein, pourtant. Hein. On sait maintenant que vraisemblablement tout le monde rêve. Il y a des gens qui s'en souviennent pas du tout. Ça, c'est un espèce de trait de personnalité qui varie, bien sûr. Il y a des moments où on se souvient, des périodes de notre vie où on se souvient plus de nos rêves, des moments où on s'en souvient moins. C'est extrêmement variable. Donc, il n'y a pas de corrélation avec la...
Et comment vous expliquez justement qu'on s'en souvienne ou qu'on ne s'en souvienne jamais ?
Je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication. On sait qu'il y a certaines maladies où les gens, ou certains médicaments qui... alors, il y a certaines maladies où les gens, effectivement, se souviennent plus de leurs rêves. Il y a certains médicaments qui provoquent des rêves, et en particulier des cauchemars. Donc là, les gens s'en souviennent plus. Pourquoi on se souvient plus souvent du cauchemar ? Parce qu'on se réveille, en fait. Hein. Donc la charge émotive est très importante. On se réveille, et donc, comme on se réveille... Voilà, on s'en souvient quelques secondes après. C'est pour ça qu'on se souvient plus souvent des cauchemars.
Des mauvais rêves.
Des mauvais rêves.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, bonsoir. Ça marche ? Le beau rêve par rapport à un cauchemar, est-ce que le corps sécrète une endorphine pendant ce beau rêve ou pas ?
Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on n'est pas capable de savoir ce que le cerveau sécrète durant un rêve agréable. Alors le bon rêve, c'est plutôt le rêve agréable versus le sommeil, versus le cauchemar. On sait que durant le cauchemar, il y a une activation notamment du système nerveux autonome avec une décharge d'adrénaline. Quand on fait un cauchemar, on se réveille, on a le cœur qui bat plus rapidement, on est parfois un petit peu en sueur, on a un peu peur, on a un peu la trouille parce que est-ce qu'on rêve, est-ce qu'on rêve pas. Donc là, il y a une sécrétion effectivement d'adrénaline. Pour ce cas de figure. Pour les bons rêves ou les rêves agréables, non, je ne suis pas sûr qu'on ait mis en évidence de... Mais c'est compliqué, hein, là, ce que vous me demandez. C'est-à-dire qu'il faut avoir un machin dans le cerveau. Mais si vous êtes prête à vous prêter l'expérience, je suis preneur. Hein. Non, c'est très compliqué. C'est effectivement très compliqué pour savoir ce que le cerveau sécrète pendant le sommeil. Bon, voilà, faut avoir une aiguille dedans. Et là, il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent.
Alors, on avait une question ici.
Qu'est-ce que l'expérience Tetris ?
Alors, l'expérience Tetris, vous savez, c'est le jeu Tetris. Vous savez, l'espèce de jeu, un jeu où il faut empiler. Ils ont pris un jeu de... ce petit jeu-là, vous savez, où ça
c'est
fait
sur les ordinateurs ou les téléphones.
Le jeu d'ordinateur, où il y a les plots qui descendent comme ça, puis il faut les mettre, on peut les tourner, et puis il faut les mettre dans bon sens pour que ça s'accumule le plus. C'est une espèce de jeu d'ordinateur qui était sur les premiers ordinateurs. Ils l'ont choisi parce qu'il y a beaucoup de couleurs et parce que.
C'est assez addictif.
C'est assez addictif, effectivement. Quand on foire, on a envie de recommencer. Et donc on était sûr qu'ils pouvaient tenir
Ils allaient bien se concentrer dessus.
Voilà, 3 heures sans s'endormir.
Si vous avez des petites questions papier, faites-moi signe, hein, je viendrai les chercher.
Est-ce que par rapport au rêve prémonitoire, est-ce que c'est prouvé ? Un rêve prémonitoire.
Les rêves prémonitoires, alors... ben oui et non. Non, non, les rêves ne sont pas prémonitoires. Encore que là, quand on regarde les étudiants, ils ont tous rêvé qu'ils foiraient ou que ça allait mal se passer. Et puis finalement, ça se passe bien. Donc non, je ne suis pas sûr. Il n'y a pas de rêve prémonitoire, je ne pense pas. Ou alors, c'est quand on rêve. Donc, quand vous regardez effectivement l'histoire des étudiants là, ils rêvent qu'ils vont foirer leur examen, mais il y en a certainement à qui ça a dû arriver. Même s'ils ont eu une meilleure note, il y en a peut-être qui sont restés en dessous de la barre quand même, et donc ils ont dit bah oui, je l'ai rêvé, et c'est arrivé. Donc c'est compliqué de répondre à cette question. A priori, je pense pas que le rêve puisse influencer à ce point-là ce qui se passe. Sauf qu'à être très très angoissé. Moi, j'ai pas rêvé que je foirais ma conf, donc
tout va bien.
Plutôt bien d'ailleurs. Hein.
On a une autre question sur la prémonition.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Au niveau de la prémonition, on a l'impression déjà, ça m'est déjà arrivé d'avoir vécu un moment que j'ai rêvé ou suite à la prémonition là. Alors, est-ce que c'est suite à un rêve ? Je peux pas vous expliquer. Mais il y a certaines situations que j'ai déjà vécues et je me dis, mais j'ai déjà vécu ça, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, il y a deux petites choses. Il y a une première, ce que vous dites, c'est finalement l'impression de déjà vécu. C'est compliqué, ces impressions de déjà vécu. Il y a certains chercheurs qui pensent qu'en fait, ce sont peut-être des mini-crises d'épilepsie où effectivement sont réactivés des neurones qui rappellent un petit peu ce qui s'est passé il y a un petit bout de temps. Je ne suis pas très convaincu par ce genre d'études. Ça se voit effectivement chez des patients qui ont une vraie maladie épileptique. Quand ça arrive dans population générale comme ça, il faut bien imaginer que dans le cerveau, ce qui se passe durant le sommeil, et en particulier durant le rêve, le cerveau sélectionne un petit peu ce qui va être pertinent, ce qui est important, ce que vous trouvez important, et va effacer le reste. Il y a un dialogue très important dans différentes parties du cerveau pendant le sommeil, où il y a des discussions très importantes avec l'hippocampe, qui est la structure de la mémoire, en fait. C'est compliqué à expliquer simplement, mais il peut y avoir des circuits qui se mettent qui se suractivent durant le sommeil et qui peuvent effectivement se réactiver durant l'éveil, simplement à la faveur d'un indice. Simplement le fait d'avoir un indice presque imperceptible d'un souvenir ancien, s'il a été bien consolidé pendant le sommeil, et ben hop, il revient très très vite. Et comme on l'a vu dans le sommeil, dans le rêve, le sommeil, le cerveau, ben, il change un petit peu la réalité, il prend des bouts, il est contenu. Il peut y avoir le souvenir durant le rêve, il est un petit peu flou. Hein, vous avez bien vu quand dans les récits de rêve, c'est parfois enjolivé, c'est pas forcément très fidèle. C'est très inspiré de la réalité, mais c'est pas forcément fidèle. Il y a une espèce d'interprétation personnelle du cerveau. Bien, comme ce souvenir peut être un petit peu flou, un indice qui ne correspond pas forcément peut rappeler ce genre de souvenir un petit peu comme ça. Je pense que c'est plutôt de cet ordre-là où effectivement on a l'impression d'avoir déjà vécu. Et en fait, c'est peut-être pas forcément, quand on pioche dans la case souvenir, il y a quelque chose qui y ressemble et qui nous fait penser à ça.
Vanessa, tu as une question au fond ? Je ne la vois plus. Oui ?
Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le même cycle de sommeil, par exemple 8 heures en moyenne. Là, j'imagine que c'était sur des bases un peu comme tout le monde, 8 heures. Et je me demandais si une personne a un cycle différent, par exemple polyphasique ou ce genre de choses, est-ce que les rêves et les cauchemars, ils sont différents ? Si le sommeil est différent, est-ce que les rêves le sont aussi ?
Non, les rêves ne sont pas différents. Pour les gens qui sont, par exemple, des courts dormeurs, qui dorment que quelques heures, des longs dormeurs qui peuvent dormir jusqu'à 8 ou 9 heures, les rêves, il n'y a pas de différence. Le fonctionnement du cerveau durant le sommeil de rêve, durant le sommeil paradoxal, durant les rêves, il est assez solide. C'est quelque chose qui est très très solide, c'est très ancré dans le fonctionnement du cerveau et il n'y a pas de différence, en tout cas pas à ma connaissance, je ne pense pas.
J'ai une question par ici.
Est-ce que le somnambulisme, c'est une forme particulière de rêve ?
Alors, une question très intéressante. Est-ce que le somnambulisme est une forme de rêve ? C'est une forme... Alors, le somnambulisme, c'est compliqué. Oui, c'est une forme de rêve si on dit que le rêve, c'est une activité mentale durant le sommeil. C'est effectivement l'expression d'une forme de rêve, puisque... quand les gens font leur épisode de somnambulisme, ils répondent à une. Enfin, le cerveau matérialise une pensée. Donc, oui, effectivement. Et d'ailleurs, on voit très bien les rêves, l'activité onirique, l'activité mentale durant ce somnambulisme, elle est relativement calme. Le somnambulisme, en fait, c'est très souvent des gens qui se lèvent de leur lit, qui déambulent, qui ne sont pas très, très adroits, et puis qui se recouchent quelque part. Le plus souvent, c'est ça. Ou c'est tout simplement des gens qui parlent durant leur sommeil. Hein. Donc, c'est pas toujours intelligible, on ne comprend pas toujours. Et donc, ça traduit effectivement une différence entre ce que je disais tout à l'heure, c'est que le somnambulisme survient en sommeil profond. Et donc, c'est une espèce de rêve, mais un peu pato, pas très émotif, pas très violent, où il n'y a pas beaucoup d'émotions. Effectivement, c'est on voit apparaître le somnambulisme fait ce qu'il pense. Alors, le problème du somnambulisme, c'est que c'est pour ça que j'hésite un petit peu dans ma réponse, c'est qu'en fait le cerveau il est à moitié réveillé, à moitié endormi. Donc c'est un peu compliqué, mais globalement il y a une activité mentale le cerveau est à moitié, il y a une moitié du cerveau, la moitié du cerveau qui dort et la moitié qui est réveillée. Et effectivement, ce qu'on voit, ce que le patient fait, c'est ce que le patient imagine ou c'est l'activité mentale du patient, absolument, en sommeil profond.
J'ai une question écrite. Pourquoi certaines personnes rêvent toujours les mêmes rêves ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a effectivement des rêves récurrents. Peut-être que c'est des souvenirs qui sont bien ancrés. Alors, on ne dit pas quelle est la tonalité du rêve. Souvent, ces rêves récurrents comme ça ne sont pas toujours agréables. C'est des cauchemars. C'est ce qui se voit dans les gens, notamment ça se voit beaucoup chez les militaires qui reviennent d'opération, ou chez les gens qui ont subi un attentat, où les gens font des cauchemars de leur rêve. Ça, c'est des rêves récurrents. Et ben, c'est qu'effectivement, il y a eu un traumatisme à ce moment-là, et que ben, la mémoire a retenu ça. Et puis, ben, durant le rêve, quand le cerveau, une partie du cerveau, de la conscience discute et va chercher ce qui se passe dans la mémoire, et ben, ces événements sont tellement prégnants, tellement chargés d'émotions, bah, qu'ils reviennent systématiquement.
Est-ce qu'on peut avoir des rêves dans ce cas-là qui sont des dénis, par exemple, je sais pas moi, on a oublié une agression plus petite et ça revient dans le rêve, c'est possible ça ?
C'est possible, tout à fait. Oui, tout à fait, absolument, tout à fait. Et alors, juste ce qui est très amusant, c'est que l'étude dont je vous parlais là du corbeau orange, vous vous souvenez du corbeau orange qui peint, qui est barbouille. Ben, cette étude, curieusement, elle a permis de découvrir un traitement, notamment effectivement des cauchemars, puisque maintenant il y a des gens qui pensent qu'on peut modifier les rêves en faisant parler les gens, en faisant raconter les gens, et ça a été mis au point. Alors c'est des Canadiens qui ont mis ça au point, mais ils ont beaucoup utilisé ça, toujours à la Salpêtrière, l'équipe qui travaille beaucoup là-dessus, après les attentats de Paris. Ils ont demandé aux gens de re-raconter leurs rêves, et l'idée c'était de retenir, en fait, ils racontaient le début du rêve jusqu'à l'événement traumatique, et puis on leur demandait de changer l'histoire, et d'apprendre une histoire différente, et de la retenir, et 5 à 10 fois par jour, de prendre 5 minutes pour respirer tranquillement, et puis penser à cette nouvelle histoire où le rêve commence comme le cauchemar, et puis à un moment donné où ça change, on leur a demandé de changer l'histoire, et de retenir cette histoire, de faire ça 10 fois par jour, et effectivement, ça modifie les rêves durant la nuit, et ça permet effectivement, comme ça, de traiter ces cauchemars à répétition. On appelle ça les stress post-traumatiques, et en particulier sur ces gens-là, et ça marche très très bien.
Voilà, vous parlez de provocation de rêve, et je voudrais savoir si l'hallucination, souvent due à un traitement médical, peut être aussi considérée comme un rêve.
Oui. Effectivement, et c'est ça qui est très qui est compliqué, en tout cas pour les neurologues dans ce genre de choses-là. Mais effectivement, il y a une partie de certaines hallucinations qui sont en fait le cerveau qui se met à rêver tout d'un coup de quelque chose, et puis qui se réveille tout de suite après. Donc effectivement, certaines hallucinations sont l'irruption de rêves dans la veille. Et donc, effectivement, c'est le cas. Vous avez raison.
J'aurais une deuxième question, si vous me le permettez. Ben, ces travaux sont récents, deuxième partie du XXe siècle. Par rapport au travail fait sur l'étude des rêves en référence à Freud ou à Jung, est-ce que ces nouveaux travaux, toutes ces connaissances nouvelles, sont un peu une controverse à ce qu'ils développaient, eux, dans la recherche psychiatrique?
Alors, effectivement, c'est les éléments là, que je vous ai exposés vont un peu à l'encontre de ce que disait Freud. Hein. Quand on interroge les banques de rêves, il y a très, très peu de rêves érotiques, par exemple. C'est vraiment une minorité. Donc, effectivement, ça va un peu à l'encontre, surtout quand on s'aperçoit qu'effectivement, on peut modifier nos rêves, qu'on peut être conscient dans nos rêves. Ça, c'est des éléments qui s'opposent un petit peu à tout ce qu'a dit Freud. Pour autant, Freud, dans les années 1800 ou 1880, n'avait pas les techniques dont on dispose actuellement et était complètement incapable de discuter ou de demander à quelqu'un de rêver, d'indiquer qu'il rêve et de faire de répondre à une consigne ou d'exécuter une tâche. Donc, je pense que leurs travaux, au moment où ils les ont faits, était tout à fait sincère, mais effectivement, maintenant qu'on connaît un peu mieux le fonctionnement du rêve et les thèmes de rêve, très clairement, on voit qu'effectivement, c'est surtout ce qui se passe dans la journée qui vient nourrir les rêves, pas forcément ce qui s'est passé il y a 15 ans, ou alors dans des cas très, très particuliers, traumatiques. Donc, effectivement, on va un peu... Après, l'approche des chercheurs actuels, elle est très, très rationnelle. Hein, c'est-à-dire qu'ils prennent un groupe de patients, plusieurs groupes de patients, ils essaient de faire en sorte que la seule différence, par exemple sur les paraplégiques, hein, ils ont pris des gens qui étaient paraplégiques de naissance, des gens qui ont marché, donc qui ont tout marché dans leur enfance, et qui ont ensuite, à la suite d'un accident, n'ont pas plus marché, et puis ils ont pris des contrôles. Donc c'est très très rationnel, on essaie bien de comparer qui était effectivement la méthode, et plutôt la méthode de Claude Bernard de la même époque. Donc la méthode est un peu plus scientifique, un peu plus raisonnée, un peu plus stricte.
Bonsoir. Je voulais savoir si on se forçait à se dire qu'il fallait qu'on se souvienne d'un rêve avant de s'endormir, est-ce qu'on s'en souvenait mieux le lendemain ?
Alors, c'est compliqué de se forcer à souvenir d'un rêve qui n'a pas encore eu lieu, qui va peut-être venir. Je ne sais pas, peut-être. Si vous forcez à rêver du corbeau orange qui peint dans sa salle de bain, là, effectivement, vraisemblablement, vous allez vous en souvenir. Je pense que... Mais amusez-vous à faire cette expérience. Alors, avec un corbeau orange ou avec autre chose, il faut que ça soit quelque chose de, pour qu'on puisse le retenir, donc de très visuel. Hein, parce que le rêve, c'est très visuel. Mais on doit pouvoir... moi, je ne me suis pas amusé à faire ça parce que... Bon, déjà, je travaille trop. Donc, on va commencer à faire des expériences sur moi. Mais on pouvait tout à fait vous amuser à dire, bah, tiens, ce soir, je vais essayer de rêver de ça. Alors, il faut que vous racontiez une histoire, que vous inventiez une petite histoire et que vous la répétiez une petite dizaine de fois pendant au moins 5 minutes dans la journée. Mais ça, effectivement, c'est pas du tout impossible que ça marche. Encore une fois, le traitement des stress post-traumatiques et des gens qui font des cauchemars après un traumatisme, on fait ça. Hein. On leur dit de, pendant 10 fois dans la journée, pendant 5 minutes, vous vous posez et vous imaginez ce rêve-là. Donc ça commence comme le traumatisme. Et puis au lieu de... au moment où ça devient catastrophique, vous changez le cours de l'histoire et puis vous remémorez cette histoire. Et effectivement, les gens incorporent après ce petit travail dans la journée, durant la veille, les gens incorporent cette nouvelle histoire, ce nouveau scénario dans leur rêve. Donc ce n'est pas du tout impossible. Vous devriez pouvoir influencer vos rêves de la sorte, je pense.
Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis géographe et je travaille sur les rêves. Alors, ma question est en fait une question de méthode. Et pour le médecin que vous êtes, quelle différence vous faites entre les travaux que vous menez sous une forme expérimentale. Vous prenez des étudiants de première année, vous les réveillez, vous leur faites faire un questionnaire, ou les travaux que l'on peut faire à partir des carnets de rêve. Et je pose cette question parce que quand vous avez présenté la diapositive sur les banques de rêves, on a ce chiffre de 22 000 rêves qui paraît extrêmement important. Or, les travaux montrent qu'actuellement, les gros rêveurs, et ça va permettre de répondre en partie à la question du monsieur qui a posé la question devant, un gros rêveur peut se souvenir entre 2 et 2,5 rêves par nuit. Donc il y a des gens qui arrivent très fréquemment. Et donc si vous faites le calcul, on a des carnets de rêves où on sait que les gens notent 600 à 700 souvenirs de rêves par nuit. Sur les 30 ans de l'espace Mendès France, ça en fait justement environ 22 000. Donc, quand on dit qu'une personne seule sur 30 ans peut faire 22 rêves, c'est quelle validité on donne à une banque de rêves dans laquelle finalement il n'y a que 22 000 rêves ?
22 000, c'est quand même pas mal. C'est quand même beaucoup. Encore une fois, ce sont il n'y a pas 22 000 personnes, hein, y a beaucoup moins de personnes. Et c'est un recueil, c'est une banque dans laquelle les gens mettent précisément, c'est pas une banque ouverte, hein, c'est-à-dire que moi, quand je rêve, je peux pas mettre truc. C'est toutes les études qui ont étudié des rêves Et toute la méthodologie de l'étude est mythe sur cette banque-là. Et donc, on sait très bien, est-ce qu'il y a combien de sujets ? Ben, y a une étude qui a fait 300 sujets. Il y avait 150 hommes, 150 femmes. Ils étaient âgés de tel ou tel moyen, enfin de niveau d'âge, niveau d'études, quelle était la pratique, est-ce qu'ils prenaient des médicaments ou pas des médicaments. Donc, c'est uniquement ça. Pour autant, ça reste quand même une bonne image de tout ce qui se passe sur les rêves.
Ma question, c'est surtout de se dire, quand on vient chez vous, ou quand on fait des travaux chez Isabelle Arnufle, autant, par exemple, je suis chez moi, où on connaît plein de gens qui notent leurs rêves, et on est dans notre milieu, on est dans notre chambre à coucher, et c'est relativement facile, en s'entraînant, de se souvenir de rêves. Qu'est-ce qui se passe et quelle est la validité de ce que vous sortez quand vous endormez des gens, la plupart du temps qui sont des volontaires, vous les bardez d'électrodes, ils sont dans un milieu qui n'est pas leur, et est-ce que ce qui sort, entre guillemets, de ces résultats, est-ce qu'on doit interroger les résultats qui sortent de ce type d'expérimentation, en fait ?
Il faut toujours interroger les résultats qui sortent d'une expérimentation, c'est systématique. Quand on fait des carnets de rêves, on n'enregistre pas le sommeil des gens. Hein. Y a pas mal d'études qui sont faites. Voilà. Après, les études, on enregistre le rêve donc on les met dans un environnement écologique différent quand précisément on veut influencer leur rêve ou qu'on veut étudier avec une temporalité extrêmement précise, c'est-à-dire qu'on veut les réveiller spécifiquement soit en sommeil profond, soit en sommeil paradoxal. Toutes les études sur les étudiants, ils n'étaient pas du tout branchés, hein, c'est-à-dire qu'on leur envoyait un questionnaire, on dit voilà de quoi vous avez rêvé, donc ils étaient chez eux en conditions complètement écologiques, donc complètement standard, il n'y avait aucune intervention. Tout ça. Donc, tous les récits de rêve ne sont pas du tout liés à l'enregistrement du sommeil, au contraire.
On a une question au planétarium, peut-être ? Non ? Ça vient pas ? Bon. J'ai une question écrite. Est-ce que les paralysies du sommeil ont été expliquées scientifiquement et pourquoi cela se produit ? Et quand ça se produit, pourquoi tous les cas rapportent une présence qui nous veut du mal ?
Alors, les paralysies du sommeil ont effectivement été décrites scientifiquement et on peut l'expliquer. Comme je vous ai dit, en sommeil paradoxal, je vais vous remettre ma diapo, c'est un stade de cerveau un peu particulier où le cerveau est réveillé, les muscles bougent, on rêve, d'accord, et les muscles sont complètement paralysés. Il n'y a que les muscles des yeux et la respiration qui sont actifs. Normalement, ce sommeil paradoxal, on le fait... Vous avez vu, c'est les traits rouges en haut. On le fait plutôt en fin de nuit. Mais chez certaines personnes, on peut... D'abord, ça peut survenir tout en fin de nuit ou tout en début de nuit. Et notamment, d'une façon un peu curieuse, ça peut survenir, ce blocage musculaire peut tout à fait survenir alors qu'on est réveillé. Et la paralysie du sommeil, c'est exactement ça. C'est en fait quand on se réveille du sommeil paradoxal, qu'on fait plus souvent en matin, en fin de nuit, le matin, on se réveille par bout, le cerveau se réveille par bout, et le cerveau peut se réveiller avant que le blocage de la commande musculaire soit effectué. C'est-à-dire qu'on peut être réveillé et complètement paralysé. En règle générale, ça dure quelques dizaines de secondes, c'est pas très long. Ce n'est pas une maladie, ça se voit dans 20% de la population générale, donc ce n'est pas grave. Pour autant, c'est extrêmement effrayant. Hein. C'est très effrayant. Il y a des gens qui viennent me voir à la consultation, alors j'essaie de les rassurer, mais c'est très effrayant parce qu'ils sont réveillés, ils ne peuvent pas bouger du tout, il n'y a que les yeux qui peuvent bouger, et puis surtout, ils respirent tranquillement comme s'ils dormaient. Donc certains ont l'impression de ne pas arriver à bien respirer, mais c'est très très effrayant. Et ben, c'est simplement que le cerveau est en train de se réveiller, il est comme ça, entre deux sommeils, le cerveau est réveillé, les muscles occumulateurs sont réveillés, sauf que le blocage des muscles qui se fait ici au niveau du tronc cérébral, il y a un petit coupe-circuit qui se fait au niveau du tronc cérébral, il n'est pas encore réveillé, il est resté en position off, et donc on est réveillé, mais on est complètement paralysé. C'est tout à fait affolant. Il y a aussi, pour revenir sur pourquoi est-ce que c'est souvent une sensation désagréable, parce que là, on n'est pas toujours bien réveillé et que des fois, on est aussi en rêve ou on est à moitié en rêve, à moitié en réveillé, un petit peu comme les hallucinations. Et donc, ça donne la sensation, effectivement, que ben, c'est une espèce d'hallucination, finalement. On a l'impression qu'on est en train de rêver et donc on fait des allers-retours entre, en quelques secondes entre on rêve, on se réveille, on rêve, on se réveille. Et donc là, le cerveau, ben, il ne sait plus très bien ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et quand on rêve, effectivement, qu'il y a une méchante bête ou quelque chose d'assez inquiétant dans notre rêve, sans qu'on puisse vraiment le verbaliser, eh bien, on a la sensation qu'il se passe quelque chose d'imminent. Associé avec cette paralysie qui est tout à fait terrorisante, ça, effectivement.
Donc, a priori, on a bien une question au planétarium. On écoute.
Bonsoir. En fait, je ne sais pas si vous pouvez me répondre ou pas. Voilà, j'ai discuté avec des amis comme quoi je venais à cette conférence. Et la personne m'a expliqué un de ses rêves par rapport à la mort de son grand-père. Il était encore vivant quand elle a rêvé de lui et peu de temps après, il est mort. Est-ce que le rêve serait pas un rêve de l'inconscient qui voulait lui faire voir ce qu'elle voulait pas voir ? Est-ce que c'est possible ?
Alors, c'est compliqué. Comme je le disais, durant le rêve, le cerveau va piocher des choses dans la mémoire et il les ramène à la conscience durant le rêve. On se souvient surtout de ce qui nous a marqué, on se souvient surtout de ce qui nous fait très plaisir, mais on se souvient aussi beaucoup de ce qui nous fait peur, on se souvient plus facilement de ce qui nous angoisse, de ce qu'on appréhende, de ce qu'on n'a pas envie qu'il survienne. Donc effectivement, le cerveau, durant le rêve, bah, il va piocher ces éléments-là et parfois il tombe, sans qu'on sache très bien pourquoi, sur un souvenir plutôt sympa, parfois sur un souvenir un peu plus désagréable. Alors, j'ai pas interrogé la base, effectivement, les rêves de proches disparus comme ça sont... Bon, après, ça dépend souvent dans les mois qui suivent un décès. C'est quelque chose, c'est un événement un peu marquant dans la vie, y compris affectivement et émotionnellement. Donc, c'est pas... c'est normal de rêver à quelqu'un qui vient de disparaître. Parce que, ben, en plus, il y a la mémoire qui se fait, il y a tout le travail du deuil qui se fait, et puis éventuellement de toute la tristesse, éventuellement de la dépression qui suit un deuil, où là, c'est encore autre chose. Mais effectivement, le cerveau peut aller piocher dans des souvenirs qui ont marqué, qui sont prégnants, qui sont très importants, qui sont dotés d'un attribut émotif un peu plus fort que les autres, qui fait qu'effectivement ils vont ressurgir et revenir à la surface plus facilement. C'est là encore dans ce que c'est assez flou, hein, ce que le cerveau pioche dans la réalité et dans la mémoire reste un petit peu flou. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Non. En fait, ma question était, en fait, cette personne-là était sur le point de mourir. Elle n'était pas encore morte. Donc, elle ne voulait pas admettre sa mort imminente. Et donc, peut-être qu'en le rêvant, c'était peut-être plus facile pour elle d'accepter. Je ne sais pas. Peut-être que l'inconscient, en le faisant voir comme ça, c'était un moyen de lui faire comprendre la vérité. Donc c'est pour ça. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pas possible ?
C'est tout à fait possible. Exactement comme les étudiants qui étaient en première année ont beaucoup rêvé, ou une majorité ont rêvé que qu'ils allaient... qu'ils n'allaient pas réussir le concours, qu'ils allaient avoir des mauvaises notes ou qu'ils allaient avoir des choses... qui pouvait se passer, qui risquait de se passer. Les rêves, effectivement, c'est aussi un petit peu d'anticipation. C'est-à-dire que se retrouve dans les rêves, comme je l'ai dit, une forme d'anticipation où on essaie de deviner un petit peu ce qui, bah, finalement, ce qu'on appréhende et ce qu'on n'a pas forcément envie qu'il se passe. Donc, effectivement, c'est possible.
J'ai encore une question écrite sur une personne qui nous signale. Vous parliez tout à l'heure, donc le rêve, l'activité cérébrale, les yeux qui bougent. Là, c'est tout le corps qui tremble. Et en fait, ça arrive plutôt en fin de nuit, nous dit-elle. Et donc, tout le corps qui tremble, les jambes, le buste, etc. Mais la personne dort, elle ne se réveille pas. Et visiblement, ça revient souvent. Donc, elle dort, mais elle tremble. Est-ce que ça s'explique ?
Alors, C'est pas forcément attaché au rêve. C'est compliqué le tremblement parce que effectivement souvent quand il y a des gens qui peuvent trembler, il y a certaines pathologies neurologiques où les gens tremblent. Et normalement ce tremblement s'efface durant le sommeil. Après il peut y avoir des manifestations un petit peu plus curieuses durant le rêve et durant le sommeil paradoxal, mais c'est peut-être pas forcément ce dont à quoi la personne fait référence, parce que des tremblements ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être un tremblement simple, ça peut être un malaise, ça peut être une crise d'épilepsie. Ce qui se passe souvent chez certains, ça me donne l'occasion de parler de certaines pathologies où la petite gâchette là, qui interrompt et qui déconnecte durant le rêve le cerveau des muscles, elle ne fonctionne plus. Il arrive à certaines maladies dans lesquelles elle ne fonctionne plus. Et donc là, effectivement, il y a une connexion directe entre ce qui se passe dans le cerveau, donc les rêves et les muscles. Et donc quand on regarde les gens, on voit ce à quoi ils rêvent. Et donc effectivement, il y a tout un tas de quelques pathologies comme ça où effectivement on peut voir ce à quoi les patients rêvent parce que malheureusement pour eux, alors effectivement ils rêvent, quand ils rêvent qu'ils courent, ils bougent les jambes comme s'ils couraient. Quand ils rêvent qu'ils tapent avec un marteau sur un clou, on les voit taper sur un marteau avec un clou. Donc c'est des maladies graves, des maladies qui sont quand même embêtantes parce que quand ils rêvent qu'ils font un cauchemar et qu'ils doivent se débattre parce qu'ils sont agressés par une bête méchante, on les voit qui repoussent la bête méchante. Donc effectivement, il peut y avoir des motricités, mais ça, c'est des maladies neurologiques, en règle générale.
D'accord. J'ai une question par ici.
Oui, parler en dormant, je pense que c'est en relation avec un rêve, mais est-ce que c'est fréquent? Est-ce que beaucoup de personnes parlent comme on remue beaucoup les yeux? Est-ce que beaucoup de personnes parlent? Et est-ce qu'on peut les faire parler?
Ah, alors, il y a trois questions.
C'est déjà plus intéressant.
Est-ce que c'est fréquent? Oui. Est-ce que c'est fréquent chez les enfants? Oui, c'est très fréquent chez les enfants. D'accord. Est-ce que c'est du rêve? Oui et non. Là encore, ce qu'on appelle la somniloquie, hein, le fait de parler en dormant, se rapproche plus du somnambulisme que des rêves vécus. Donc c'est très fréquent, ça arrive. Est-ce qu'on peut les faire parler? Non. Probablement non, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, le cerveau est à moitié endormi, à moitié réveillé. La cognition et le fonctionnement intellectuel n'est pas très performant. Et encore une fois, les somnambules, vous savez, ils sont très maladroits, ils se lèvent, une fois sur deux, ils se cassent la figure et à ce moment-là, ils se réveillent et ils se recouchent. Donc le fonctionnement du cerveau est très, très sommaire chez les gens qui font du somnambulisme. Quand ils parlent, on ne comprend pas toujours bien ce qu'ils disent. C'est parfois baragouiné, c'est parfois scandé, un peu crié. Souvent, c'est en rapport avec les activités professionnelles, souvent. Mais non, interagir durant le somnambulisme avec quelqu'un qui parle, lui faire dire des choses qu'on voudrait lui faire dire et qu'il n'a pas dit durant l'éveil, non, c'est un peu présomptueux parce que simplement, le cerveau ne va pas être en mesure d'incorporer, de comprendre la phrase que vous prononcez pour pouvoir y répondre de manière intelligible. Et de toute façon, s'il répond, il ne faudra pas le croire parce que je ne suis pas sûr que le cerveau soit suffisamment bien fonctionnant à ce moment-là pour pouvoir vous donner une réponse adéquate.
Bonsoir. On voit sur le graphique qui est affiché là que les heures sont sur un sommeil de nuit.
Comment ?
Mais quand une personne travaille de nuit et dort le jour, est-ce que le sommeil est le même ?
Alors, non, effectivement, le sommeil de nuit n'est pas le même que le sommeil de jour parce que d'abord, on est programmé pour dormir la nuit. Donc, tout le cerveau et notre horloge interne est programmé pour qu'on dorme la nuit. Et donc, effectivement, quelqu'un qui ne dort pas la nuit, donc qui va travailler là de 22 heures comme le font plein d'infirmières actuellement ou plein de médecins au CHU, les gens, ils vont travailler. Ils vont rester réveillés. Là, ça va vraiment être très, très dur. Hein. Vous allez dire 3 heures du matin, ça va vraiment être très, très dur de rester réveillé. Ils vont être un peu dans les choux. Mais bon, pour autant, ils vont continuer à bosser et puis ils vont rentrer chez eux. Et en fait, ce qui se passe, vous voyez que ce qu'on fait, on fait surtout en fin de nuit beaucoup de sommeil paradoxal qui est dessiné ici en rouge. Et le sommeil profond, il est là, qu'on fait beaucoup en première partie de nuit. Eh bien donc, si on fait dormir ici quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit, donc si ils font leur sommeil de 8h à 15h, eh bien en effet, ça ne sera pas du tout le même sommeil. Ça sera un sommeil très très riche en sommeil paradoxal et très très riche en rêve. Et ça sera un sommeil qui sera peu riche en sommeil profond. Et donc effectivement, ce sommeil de jour ou d'après-travail chez les travailleurs postés, il n'est pas du tout de la même qualité. En tout cas, il n'est pas de la bonne qualité. Et en tout cas, il n'y a pas assez de sommeil profond dans le sommeil qui est fait à partir de 5 heures du matin ou de 8 heures du matin jusqu'à 13 heures ou 14 heures, comme font beaucoup les infirmières de nuit. Donc effectivement, ce n'est pas du tout le même sommeil, il n'est pas aussi restaurateur.
On a une autre question au planétarium.
Bonjour. Bon, allô ? Oui, allô.
On vous écoute.
J'ai l'impression que mes rêves assez confortables sont en couleur. Alors, rêve-t-on en noir et blanc ou en couleur ?
On rêve en couleur. On rêve en couleur, absolument. Oui, les rêves sont très, très coloriés. Les formes sont un peu moins précises, les formes sont bizarres, mais globalement, les couleurs sont très présentes. Souvent, d'ailleurs, c'est des formes très colorées, très scintillantes, avec des couleurs vives, pas forcément dans les pastels. Mais on rêve, effectivement, la plupart du temps, on rêve en couleur, même si c'est compliqué de décrire exactement ce qu'on voit en rêve. Très souvent, les couleurs sont très saturées. La mer est bien bleue, le soleil est bien jaune. Et les couleurs sont très vives, vous avez entièrement raison. Je ne suis pas sûr qu'on rêve beaucoup en noir et blanc. Les couleurs sont très, très prégnantes dans les rêves.
Bonsoir. Je voulais rebondir sur la question du sommeil profond. Je sais que ce n'est pas le thème de ce soir, mais puisque la question a été abordée, moi, je voulais vous demander, j'ai ma petite fille qui a fait avec les bracelets, je ne sais pas si c'est assez performant, pour voir la qualité du sommeil. Mmh. Et apparemment, elle n'a pas assez de sommeil profond, elle est toujours très fatiguée. Et je voulais vous demander s'il y avait des solutions pour remédier à cela et qui consulter.
Un vrai spécialiste du sommeil, je pense. Avec un petit bracelet, une petite actimétrie. Oui, non. Pour connaître la quantité de sommeil profond, il faut enregistrer l'activité du cerveau. C'est pas avec une petite montre qu'on peut savoir si les gens font du sommeil profond. Alors après, effectivement, il y a plein de raisons d'être fatigué. Hein. On peut être fatigué parce qu'on n'a pas un sommeil de bonne qualité. On peut être fatigué parce qu'on n'a pas un sommeil de suffisamment grande quantité. Mais il y a plein d'autres raisons d'être fatigué. Et effectivement, à ce moment, il vaut mieux consulter. Si on soupçonne que ça vient du sommeil, il faut consulter dans un centre du sommeil. Oui. Ouais, ouais.
Que penser des sites internet ou autres, ou des gens qui sont en mesure de vous expliquer les rêves? Si vous avez rêvé ceci, c'est que il va vous arriver un malheur, etc. Et est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites par ces gens-là, de manière à pouvoir quantifier ces problèmes?
Je ne ferai pas très très confiance à ces sites.
C'est ce que je pensais.
J'ai effectivement été regarder hier soir en préparant ma conférence. Non, il y a effectivement beaucoup beaucoup d'explications. Hein. Beaucoup beaucoup d'explications. Hein. Ça, alors, il faut bien choisir votre site parce que ce n'est pas les mêmes. Hein. Donc, sur un site, on vous dit quand vous perdez vos dents, c'est que vous allez bientôt mourir. Sur un autre site, c'est qu'il va y avoir une naissance. Donc, c'est un peu compliqué. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Il faut pas faire ça. C'est pas, il y a pas d'interprétation comme ça. Oui, non, c'est vraiment de l'imagination pure. Alors, faut surtout pas payer. Mais c'est vraiment pas des choses. Je pense pas que ce soit des choses très très sérieuses. Pour explorer ses rêves, le mieux, c'est de prendre un carnet, de mettre un carnet et un stylo sur sa table de nuit, et chaque fois qu'on se réveille, de noter quelques mots, soit ce à quoi on rêvait, soit les émotions qui viennent. Comme ça, on note, je sais pas, ce qui se passe par la tête, et on va s'apercevoir qu'effectivement, c'est assez lié au contenu de nos rêves.
Bonsoir, monsieur le professeur.
Bonsoir.
J'ai deux questions. Quand on fait du théâtre et que l'on rêve, et que les répliques nous réveillent pendant notre sommeil, est-ce normal ?
Oui. Oui. Bah oui, vous êtes, oui, les gens qui sont des professionnels du théâtre, qui sont très investis du théâtre et qui s'engagent à fond dans leur activité, bien sûr. C'est normal, on rêve. C'est ce que j'ai dit, hein, il y a 20% des rêves thématiques. Hein, dans 20% des cas, les thématiques sont de l'activité professionnelle ou de l'activité principale. Donc c'est tout à fait normal. C'est ce qui compte le plus pour cette personne. Donc c'est normal.
D'accord, merci beaucoup. Ma deuxième question, c'est avant de dormir, est-ce qu'on ne doit pas se servir de son ordinateur pour avoir un sommeil de qualité ou son téléphone portable ?
Oui, c'est vrai. sauf à regarder cette conférence en boucle. Toutes les autres utilisations du téléphone portable et de l'ordinateur sont proscrites. Non, effectivement, la lumière des écrans dispensés par les ordinateurs et les téléphones portables sont des lumières très très bleues qui vont aller indiquer par l'intermédiaire de l'œil à l'horloge circadienne, donc à l'horloge interne de notre cerveau, qu'il fait jour. Et donc évidemment, l'horloge, elle va comprendre qu'il fait jour, et quand il fait jour, on ne dort pas. Et donc effectivement, ça va altérer de manière tout à fait conséquente le déroulement, non seulement l'endormissement, mais ensuite le déroulement du sommeil par la suite, puisque l'horloge interne aura retenu qu'il fait encore beau, qu'il est quasiment midi, et que dans les 6 heures qui suivent midi, il ne faut pas s'endormir. Donc ça perturbe le sommeil de manière significative. Ça, il y a plusieurs études qui l'ont montré, effectivement.
On va passer la parole à quelqu'un d'autre.
Merci beaucoup, monsieur le professeur.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et dites-moi si je me trompe, si j'ai bien compris, tous les êtres humains rêvent.
Oui.
Oui. Et tous les animaux aussi rêvent-ils ou est-ce qu'il y a
Alors c'est une bonne question.
Parce que oui, les premiers éléments c'était sur des chats. Vous avez parlé. Oui.
Alors effectivement, parce que les chats sont des grands rêveurs. Parce que déjà, d'abord, ce sont des animaux qui dorment beaucoup. Le chat est un animal qui dort beaucoup. Comme le lion, comme d'autres animaux. Mais globalement, il y a effectivement une espèce de concours parmi certains chercheurs qui consiste à essayer d'aller repérer le sommeil chez le plus d'espèces possible. Actuellement, le lauréat, c'est un type de lion qui est très sympa, qui s'intéresse au sommeil des lézards. Et donc, les lézards ont effectivement... ont du sommeil paradoxal, donc on pense que les lézards rêvent et donc qui prévoient d'enregistrer les oiseaux qui migrent et d'enregistrer les oiseaux pendant leur migration. Ils font 3-4 jours de vol et donc il est en train de faire ça et vraisemblablement effectivement ces oiseaux dorment aussi et rêvent aussi, mais une fois à la droite, une fois à la gauche.
On peut parler de sommeil chez les insectes aussi, de rêve chez les insectes ou de
alors
sommeil,
du rêve chez les insectes. Madame Guiton, au secours.
Non, est-ce qu'il y a des études ?
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des études. Non, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Alors, la mouche dort. Il y a des gens qui ont montré que les mouches dormaient, effectivement, qu'il y avait le rêve de la mouche, je ne sais pas. C'est petit, la mouche. Mais théoriquement, ça a un cerveau, ça dort, donc potentiellement, ça rêve. Hein. L'être humain a toujours rêvé.
Absolument. On va prendre une dernière question, il est 20h. Alors deux questions, parce qu'il y en avait une au fond, et je terminerai avec mademoiselle.
Est-ce qu'on peut comparer le sommeil, les rêves avec l'hypnose ?
Alors ce n'est pas tout à fait la même chose, non, on ne peut pas comparer. Ce sont deux états où on est plus ou moins conscient. En rêve, on est conscient, mais le fonctionnement du cerveau durant le sommeil paradoxal, ou du moins qui est le sommeil où on rêve le plus, ou du moins où les rêves sont le plus riches, est très particulier, hein, puisque la conscience va puiser dans la mémoire, notamment dans l'hippocampe, essayer de retrouver des trucs pour les ramener à la conscience, les mélanger et construire une espèce d'histoire, de scénario plus ou moins absurde. Voilà. Durant l'hypnose, c'est différent. Durant l'hypnose, en fait, le sujet est éveillé, il n'est pas endormi, il est éveillé, mais il est extrêmement concentré sur un point particulier, sur une imagerie mentale bien particulière qui lui est plus ou moins dictée et guidée par un hypnothérapeute. Donc en fait, l'activité mentale durant l'hypnose, elle n'est pas si spontanée que ça. Elle est enrichie, elle est initiée par le sujet, par le patient qui est hypnotisé, puisque on lui demande d'évoquer, de penser à un endroit extrêmement agréable où il a été. On lui demande de détailler tout ça pour qu'il se plonge dans ces pensées-là. Mais il est tout à fait capable de répondre et il y a un entretien qui est fait par l'hypnothérapeute qui permet effectivement de faire en sorte et de maintenir cette espèce d'hyper-attention focalisée sur quelque chose de très agréable. Si on ne peut pas hypnotiser quelqu'un en lui faisant penser à quelque chose de désagréable, hein. il va pas tenir. Et si l'hypnothérapeute arrête de parler, eh bien, l'intention va de nouveau se diffuser et puis il va être de nouveau sensible aux éléments extérieurs. Donc ce n'est pas du tout le même fonctionnement du cerveau. Il y a vraiment du sommeil paradoxal très particulier. Et l'hypnose, c'est une espèce d'hyper-concentration, d'hyper-attention focalisée et entretenue par un hypnothérapeute.
Est-ce que on peut devenir rêveur lucide? Est-ce que ça se travaille ou est-ce que c'est purement inné?
On peut le devenir, effectivement, c'est une excellente question. On peut s'amuser à le devenir. Il suffit de faire un petit peu attention, de se préparer et de guetter. Alors, je pense qu'il faut commencer par faire un carnet de rêves, d'abord pour voir un petit peu à quoi ressemblent nos rêves. Donc, vous prenez un carnet, un stylo. Il faut le mettre sur la table de nuit, par contre. Il faut que ça soit très, très proche. Et dès que vous réveillez, chaque fois que vous réveillez, vous prenez votre stylo et puis vous marquez soit ce à quoi vous rêviez, précisément, soit ce à quoi vous... les sensations, les perceptions qui vous passent par la tête à ce moment-là. Et vous allez avoir une petite tonalité des rêves. Et puis, vous allez pouvoir vous habituer à essayer et à vous concentrer, essayer d'être conscient durant vos rêves. Et je sais qu'on peut le faire. Il n'y a pas eu d'études dessus, mais il y a des gens qui s'amusent effectivement. Enfin, alors il y a des gens qui essaient de développer des médicaments pour faciliter ça. Toutes les molécules ne sont pas des molécules légales. Hein. Mais il y a des techniques. Je sais qu'il y a des gens qui prônent des techniques. Et le premier pas, c'est de faire un récit de rêve. Après, il y a aussi un petit travail où on essaie de faire des micro-siestes, c'est-à-dire de percevoir le moment où on perd conscience, ou finalement de pas perdre conscience, ou de rester très entre deux eaux, d'arriver à percevoir est-ce qu'on dort pas. Mais effectivement, il y a un petit travail comme ça, on peut tout à fait devenir rêveur lucide et essayer de se souvenir de nos rêves. Le premier stade, c'est d'avoir conscience qu'on rêve. Et bien, quand on travaille bien, quand on se concentre bien, on peut y arriver, effectivement.
Alors, j'avais une question écrite approchante, c'était quand je fais un cauchemar, je me rends compte que je rêve et je peux le changer. Est-ce compris comme un rêve lucide? Car je ne peux pas faire ça pour les autres rêves, donc elle peut transformer que les mauvais rêves.
Super. Et donc effectivement, on peut être conscient durant certains rêves et pas durant d'autres rêves. C'est ça. On comprend pas très bien. On sait pas très bien hein, pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à être conscientes de leurs rêves, d'autres pas. C'est assez compliqué, mais effectivement, en travaillant, on peut essayer de. Je suis sûr que les gens peuvent plutôt détourner. Mais déjà, c'est formidable hein, de commencer un cauchemar et le détourner pour qu'il soit moins terrible. C'est déjà, oui, c'est déjà remarquable. Hein.
Bon, allez, je fais une entorse, une dernière, parce que ce monsieur me demande une question depuis tout à l'heure et je lui ai pas donné le micro.
Merci. Bonjour.
Bonjour.
Oui, je voulais juste une petite remarque. Vous avez dit que la vision était quelque chose de très important. Et d'ailleurs, la preuve, enfin, d'après ce que j'ai compris, le mouvement des yeux est là pour le montrer dans le rêve. Il me semble avoir lu dans un bouquin de M. Jouvet qui s'intitule « Pourquoi rêve-t-on, pourquoi dort-on » qu'il y avait une autre manifestation. Tout le monde faisait des érections, hommes et femmes. Et vous avez dit qu'en fait, les rêves sexuels étaient quasiment inexistants. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette contradiction?
C'est une belle terminaison, une belle fin pour cette soirée. Érection et peut-être peuvent être complètement déconnectées de l'imagination ou d'une perception ou d'une simulation sexuelle imaginaire. Dans le rêve, c'est un réflexe qui est complètement automatique. Qui n'est pas du tout conduit, qui n'a pas du tout de relation avec le contenu mental des rêves. C'est un autre circuit qui ne remonte pas jusqu'au cerveau, qui déclenche les érections durant le sommeil paradoxal. C'est complètement différent. Donc il peut y avoir des érections durant le sommeil sans du tout avoir d'activité mentale érotique ou avec un objet sexuel ou sensuel. C'est pas les mêmes. Le circuit ne passe pas par le cerveau, ça passe par le haut de la moelle et ça redescend en fait. Donc c'est une espèce de réflexe automatique. Ceci dit, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Peut-être pour entretenir le système le plus longtemps possible, parce que c'est quand même un système vachement important pour la continuité de l'espèce. Et donc c'est indépendant. On peut avoir tout le monde a des érections effectivement la nuit durant le sommeil paradoxal, et ils sont pas toujours liés à des contenus sexuels, sensuels ou oniriques de ce type-là.
Voilà, on va finir sur cette note. Merci si de votre intervention.
Merci beaucoup.
Merci au CHU, à l'Espace Mendès France d'organiser le pôle Info Santé. Et n'oubliez pas, si vous voulez retrouver donc ce débat, ce sera en vidéo sur les deux sites, le site du CHU et le site de l'Espace Mendès France. Merci à tous d'être venus.